à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de Frontend Chronicles. Aujourd'hui, on refait un épisode Discovery pour la deuxième fois. Le premier, c'était sur Vue.js et aujourd'hui, on va s'intéresser à de la confiture et aux cavaliers sans tête. On change de l'ambiance un peu printanière avec les bruits d'oiseaux dans le fond et on va attaquer un sujet très intéressant qui parle de génération statique. Mais parlons aussi de mon co-animateur qui est Benjamin Ozano.
Bonjour à tous, je suis Benjamin Ozano, développeur front-end sur Nantes et également co-animateur de ce podcast avec Denis. Et aujourd'hui, j'ai hâte de savoir de quoi tu vas nous parler, Denis, avec tes confitures, justement.
Alors voilà, la confiture, évidemment, ça fait référence à la Jamstack. Et puis la partie cavalier sans tête, ça fait plus écho au CMS Headless, où on verra que ça a quand même pas mal de liens. Mais je crois que, Benjamin, tu avais pas mal d'attentes au niveau de la Jamstack. Il y a des sujets quand même qui sont...
Oui, voilà, c'est vrai qu'en voulant attaquer ce sujet de Jamstack, on a aussi en tête, nous, avec Denis, Nuxt 3, hein, qui tarde un petit peu à arriver.
Notre préféré un peu, ouais.
Puisque l'année dernière, on a eu la chance d'avoir pu toucher un petit peu à Vue 3 en version non bêta, en version release. Donc là, on est en pleine attente. Alors, certes, on est cet été. Il y a une grande conf en septembre sur Nuxt, donc wait and see.
Exactement, ouais. Mais c'est quelque chose qu'on attend pas mal, ouais.
Et on va revenir à notre sujet principal, qui est la Jamstack. Et on va commencer par définir ce que veut dire Jam. Alors, on a J pour JavaScript, A pour API, API au pluriel, et M pour Markup. Alors, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que le JavaScript. Je ne vais pas non plus vous apprendre ce que sont des API. Et on va avoir le Markup. En fait, ça va être le langage qui va vous permettre de générer votre HTML. Parce que le but, effectivement, d'une Jamstack, ça va être, grâce à un langage de Markup, un langage de description, nous générer des fichiers HTML grâce à une petite moulinette.
Je pense qu'on peut aussi parler de la notion de génération statique. Du coup, on ne va pas avoir cette notion de JavaScript où elle sera minime. Et pareil, pas de notion d'API qui est là pour apporter aussi du dynamisme sur notre page. Ça va plus coller à un modèle de blog, par exemple,
oui.
où en fait, le contenu, il ne change pas. Il ne change que quand on écrit un nouvel article. Donc du coup, on écrit un nouvel article, on régénère une version du site et on la redéploie.
Ça peut être appliqué, je pense, à un site e-commerce aussi, avec de la génération de pages de produits. Ça peut aussi s'appliquer. Par contre, ça ne va pas s'appliquer à une notion plutôt applicative. On va avoir, en gros, trois types. Alors, ce n'est pas d'application, mais on va dire de site, entre guillemets, possible. On va avoir les SPA. Donc là, c'est vraiment single page application. Une application qui a une seule page avec un routeur intégré, quelque chose d'intelligent. C'est ce qu'on va avoir classiquement depuis longtemps sur Angular. C'est les premières versions qu'on avait.
Puis même les différents front-ends, en fait, JS. Hein.
Voilà. On va avoir les SSR pour server-side rendering. Donc là, on va repasser un petit peu côté serveur pour pouvoir avoir des accès directs aux pages. Mais ça, peut-être que tu voulais en parler, Denis, justement.
Alors, il y a une partie qui est vraiment old school. Hein, on le voit avec les vieux sites qui sont faits avec... un serveur Java qui fournit des Java server files, etc. Et puis, c'est des choses qui reviennent, évidemment, aussi avec les applications SPA, parce que pour des problématiques de référencement et de performance, on a aussi besoin de faire de la génération côté serveur, donc pour que les robots d'indexation puissent récupérer les pages et les lire. Et c'est quelque chose qui, maintenant, est intégré dans la plupart des front-ends modernes en JS, quoi. Parce que, pour répondre à toutes ces exigences, en fait, on est obligé de faire de la génération côté serveur. Et donc, du coup, c'est assez naturellement intégré dans les front-ends. Et voilà.
Je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Effectivement, il y a aussi Google et le SEO qui rentrent dans la balance. C'est-à-dire que le robot Google, lui, il va comprendre des pages rendues du URL. Et pas, il ne comprend pas trop les SPA. Il n'aime pas trop ça.
Alors, maintenant, il s'améliore de plus en plus. Il arrive à lire, par exemple, le JavaScript exécuté. Mais maintenant, il est encore plus vicieux qu'avant. En fait, si vous voulez, il peut comprendre maintenant une SPA sans faire trop de génération côté serveur. Mais par contre, si vous en faites, il va regarder si vous n'êtes pas en train de tricher. Et notamment, il va vérifier est-ce que vous avez les mêmes liens sur la page côté serveur que sur la page de l'appli une fois démarrée.
Voilà. D'accord.
Et donc, il va aussi comparer ces rendus-là. Et si on est en train de tricher, il va peut-être impacter négativement notre référencement et des choses comme ça. Donc, on entre dans une autre phase. C'est vrai que l'argument du SEO commence à baisser pour la partie génération côté serveur. Mais bon, ça reste quand même très très intéressant pour mettre nos informations.
Et enfin, le dernier sigle, SSG pour Static Site Generation. C'est là où on va faire intervenir les Jamstack. Et vous avez peut-être entendu parler d'applications universelles. C'est là où on va avoir un mélange de SSR et de SPA. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites votre server-side rendering, vous allez donc générer côté serveur une page applicative qui ensuite, une fois chargée chez le client, va charger de façon asynchrone le reste de la page avec le JavaScript et va devenir à ce moment-là une SPA.
Voilà, donc ça au niveau application professionnelle, c'est là où on essaie d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Donc la génération côté serveur pour avoir de la mise en cache, avoir des bonnes données au niveau des Core Web Vitals et tout ça. Et ensuite le SPA, pourquoi ? Parce que on sait qu'au niveau de la navigation utilisateur, pour tous les frameworks front-end JavaScript, c'est plus intéressant de naviguer et de changer que les bouts atomiquement plutôt que de recharger toute une page à chaque fois. Donc là, on va essayer de mêler un peu les deux. C'est sur mon premier accès, j'ai une page serveur qui arrive, et puis après, tout le suite de ma navigation, j'ai une application JS plus performante qui tourne, quoi.
Passons aux avantages et aux inconvénients. Un des principaux avantages, c'est qu'on va avoir un énorme gain de performance. Les fichiers créés par cette stack seront ensuite servis par des CDN. Alors les CDN, c'est des réseaux de distribution de contenu qui vont vous permettre, en fonction de votre localisation, de pouvoir vous servir les fichiers au plus vite. Et l'avantage également de ça, c'est qu'en cas de pic d'activité, ça va être les CDN qui vont absorber cette charge et pas votre serveur.
Voilà, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre, en fait, quand on parle de Jamstack. Le principal avantage, c'est vraiment les notions de performance ou pas tant que ça la vitesse en elle-même, mais le fait que ce ne soit plus à nous de gérer cette problématique de performance. Ce n'est pas à nous de faire en sorte de faire une infrastructure qui scale à base de cloud AWS ou Azure, par exemple. Ce n'est pas à nous de régler un certain nombre de problématiques de chargement de notre application et des choses comme ça. On a tout qui est en statique ou presque. Et donc, du coup, là, la perf, elle est instantanée. Et après, le scaling, c'est apporté par les CDN. Et voilà, tu le disais très bien, c'est la problématique de performance, en fait, elle est gérée très simplement et pas par nous en plus, donc c'est encore plus simple.
Et en fait, moi j'aime bien me faire l'image du web un petit peu des années 2000, où on avait beaucoup de pages statiques du HTML, du JavaScript, qui étaient faites quasiment à la main. Et en fait, c'est le plus performant en fait.
Et du coup, c'est intéressant de voir que c'est une méthode très ancienne, et en fait ça revient sur le devant du tableau, mais on change juste l'outillage en fait. Là, oui. On fait de la génération statique, mais même si c'est 20 ans après, en fait, on ne le fait plus de la même manière et on a vraiment des outils qui sont beaucoup plus puissants pour le faire, pour générer des pages très facilement avec beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments visuels. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la base, elle, est la même, elle n'a pas changé depuis 20 ans. Par contre, l'outillage autour, c'est ça qui a vraiment gagné en puissance et c'est ça qui fait que c'est assez intéressant au final.
Autre avantage notable, ça va être la sécurité. On s'abstraint totalement d'un serveur et d'une base de données. Et donc, n'ayant ni l'un ni l'autre, on n'a plus à s'occuper des problématiques de sécurité inhérentes à ces architectures. Et donc, ça simplifie les choses. On va avoir aussi, dans certains cas, et également en fonction de votre application, un hébergement moins cher, voire gratuit, dans certains cas. Je pense que vous avez tous et toutes entendu parler de GitHub et, en l'occurrence, de GitHub Pages, la possibilité de faire héberger un petit site pour présenter votre projet, mais vous pouvez très bien le détourner, entre guillemets, pour pouvoir pousser complètement une application statique dessus, un site web sans problème, et c'est GitHub qui, pour vous, servira ces fichiers-là sans problème. Vous pouvez même rattacher ensuite un nom de domaine associé à votre projet, et vous avez un site web qui répondra bien plutôt à la charge.
Voilà, ouais. Et ça, c'est assez surprenant parce que le prototypage soit poussé par GitHub, c'est tout à fait naturel. Et j'ai envie de dire, s'ils veulent vendre leurs produits, ça les aide beaucoup, en fait, de se dire, regardez, les gens qui utilisent GitHub, ils peuvent propulser des prototypes, des sites vitrines, etc. Mais l'aspect un peu plus où on a complètement le champ libre et plus la possibilité de mettre un nom de domaine par-dessus et tout ça, c'est en fait assez rigolo et en fait des fois je me demande même où est-ce qu'ils en tirent parti en fait d'aller jusque là quoi. C'est gratuit, après il y a plein d'autres solutions. Comme on le disait en fait dans l'offre qui est gratuite, il y a plusieurs notions. Il y a l'hébergement des fichiers, il y a aussi la capacité de les servir sur plusieurs serveurs, il y a de la disponibilité. Au final, la quantité de services qui est donnée tout en étant gratuit, c'est assez conséquent. Et si on passe par un hébergeur, c'est pas du tout le même prix, quoi.
Passons maintenant au point négatif, ou en tout cas au point négatif qu'on a vu avec Denis. Partez du principe que quand vous faites de la génération statique, vous ne faites pas une application, en fait. Vous faites quelque chose qui va vous permettre de servir du contenu. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Vous n'allez pas avoir la même chose qu'une application en Angular, par exemple, hein. Donc, quand tu le disais tout à l'heure, ça peut très bien servir à du blogging, à un service de gestion de produits. Et derrière, on peut y associer, donc avec les fameuses API dans le JAM, un CMS dit headless, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la partie front office, on va avoir uniquement la partie API de gestion de contenu. Et votre application, entre guillemets, va venir écouter cette API et en fonction de choses comme des webhooks, par exemple, vous avez fait une nouvelle version de votre API en modifiant les contenus, on va avoir une mécanique qui va venir régénérer votre code.
Voilà, ouais. Là, en fait, on inverse la tendance. C'est au lieu d'avoir une application qui, à chaque fois qu'on la démarre ou qu'on l'utilise, va demander le contenu à afficher, eh bien là, c'est le nouveau contenu qui va provoquer une nouvelle génération. Et après, les personnes qui consomment utilisent la dernière génération en cours.
Exactement.
Voilà. Et donc, cette inversion de paradigme, on la présente dans le point négatif, même s'il y a quand même beaucoup d'avantages à tout ça, notamment le fait de renverser la tendance, de se dire que c'est le contenu qui provoque la mise à jour de l'application et pas autre chose. C'est pas l'utilisateur qui vient lire la donnée. Voilà, la partie inconvénient qui est assez forte, c'est si on veut des règles métiers assez conséquentes, si on veut exploiter toute la puissance qu'on pourrait avoir d'une application professionnelle, c'est peut-être pas forcément la bonne solution pour ça, quoi. On va plus se tourner vers des frameworks front-end classiques, quoi. Mais du coup, moi, je voulais rebondir aussi sur l'aspect CMS headless. Globalement, moi, un des défauts que j'avais remarqué pour toute la Jamstack, parce qu'en fait, on peut l'opposer aussi aux CMS qui sont classiques, qui sont un peu clés en main, comme du WordPress, du Tumblr ou des choses comme ça. Moi, je trouve qu'il manque un truc dans la Jamstack, ou en tout cas, c'est un des inconvénients en tout cas à l'utiliser, c'est que c'est pas très user-friendly. C'est developer-friendly, mais pas user-friendly. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a des gens qui peuvent se débrouiller. Je pense à des gens qui tiennent la boulangerie du coin, ou etc., qui ont besoin d'un site perso, un site pro plutôt. Ils peuvent le faire avec un WordPress, sans forcément être développeur, en essayant de combiner les blocs et tout ça. C'est pas beaucoup plus dur, au final, que de faire un PowerPoint. Voilà. Et du coup, ce côté accessible, on le retrouve pas du tout sur la partie CMS headless plus Jamstack. Mais je crois que Benjamin, toi, tu avais un exemple où ça allait un peu mieux.
Oui, effectivement.
Cas.
Alors, je vais rebondir juste par rapport à ce que tu as dit sur WordPress. C'est vrai qu'on va avoir tout un tas vraiment un côté WYSIWYG, un côté no-code, on ne va pas se le cacher, qui va permettre à monsieur tout le monde d'aller construire son site web. Il y a plein de choses qui existent aussi pour ça. Tu n'as pas besoin de mettre forcément les mains dans le code et tu choisis tes couleurs, ton contenu, ton agencement. Et puis des fois, dans les versions gratuites même, tu vas avoir des presets, des choix en fait de style de site web. Et rien qu'avec ça, tu as un site web finalement.
Donc, oui, ça va très très vite. Ouais.
Alors effectivement, pas mal de CMS headless vont être developer friendly. Je pense que c'est vraiment le mot pour décrire ça. Mais tu vas en avoir comme Storyblock qui vont avoir une interface en WYSIWYG qui vont proposer à des gens non dev d'avoir un aperçu finalement de ton contenu intégré directement dans ton site.
Et du coup, toi, Storyblock, c'est quelque chose que tu as utilisé ?
C'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui professionnellement parlant. Le côté WYSIWYG est quand même super sympa pour voir vraiment son rendu, en fait, son écoute à l'API. Et le code réagit vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, le code attend vraiment quelque chose, une nouvelle version de l'API pour pouvoir se mettre à jour.
D'accord, ouais, et donc du coup, la partie WYSIWYG, elle se base sur le visuel que tu auras à la fin.
Exactement, en fait, ce que j'ai dans WYSIWYG, c'est vraiment le visuel que j'aurai à la fin.
Ah ouais, donc ça, c'est vraiment cool.
C'est-à-dire que c'est vraiment du 1 pour 1 pour cette fois-ci, c'est que je modifie en live. Et en fait, mon aperçu, c'est mon... en l'occurrence, c'est mon local qui te le rend. Et c'est exactement ce que j'aurai à la fin.
Ok. Ouais. Ah oui, donc du coup, ouais, une approche vraiment plus sympathique, quoi.
Exactement.
Je me renseignerai, du coup. Ça a l'air cool. Ouais, autrement, un petit dernier inconvénient, mais c'est pas forcément très marqué parce que toute la stratégie se base là-dessus, c'est la gestion des caches. On sait que c'est quelque chose qui peut être vraiment compliqué à faire en informatique. Et donc, du coup, bah, il faut être habitué avec l'invalidation de cache sur les CDN et les choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui vient avec la stack et on est accompagné dessus. C'est-à-dire que on refait une nouvelle version du site, c'est rebuildé, c'est redéployé et ensuite on déclenche tout de suite une invalidation de cache. Donc on n'est pas sur des problématiques. En plus, comme on n'a pas une application avec son front-end, son serveur et des versions qui peuvent cohabiter, etc. Là, on est plus sur du contenu direct qu'on diffuse. Donc on a moins cette problématique de version, donc on peut invalider assez vite. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un inconvénient plutôt mineur. C'est parce que à sa vie, en fait, la gestion du cache est inhérente en fait à la solution et c'est pas tant que ça une difficulté, quoi.
Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça c'est vraiment dans le cas où on est sur des CDN et qu'on pousse nos sites sur des CDN. Avec toute la mécanique d'un CDN, on va avoir une invalidation de cache dès qu'on a un nouveau contenu normalement.
Oui aussi. Voilà. Ouais.
Par contre, si on peut très bien faire de la gêne statique sur notre propre serveur, imaginons qu'on souhaite nous-mêmes héberger nos fichiers statiques, bah, ça marchera, il n'y a pas de souci. Par contre là, c'est à nous de nous débrouiller à la fois de prendre en charge la charge, justement, des gens qui peuvent arriver sur le site, et cette invalidation de cache qui peut être vraiment problématique.
Et maintenant qu'on a fait un peu le tour des petites épines qu'on pourrait avoir, et puis surtout de la puissance aussi de la Jamstack, je propose qu'on discute un peu des générateurs de sites statiques, parce que du coup, voilà, on l'a dit auparavant, une Jamstack est surtout décomposée en deux éléments, une génération de sites statiques, pour produire du HTML, et un CMS headless qui, lui, est là pour produire du contenu. Et donc, du coup, je propose qu'on commence avec la génération de sites statiques. On s'est intéressé, on a regardé en fait les générateurs les plus connus. Bon, on en a plus de 300 sous les yeux, donc oui. Ça commence à faire beaucoup. Et contrairement au framework front-end où vous allez être obligé de faire du JavaScript un jour ou l'autre, et ben là, en fait, vous avez beaucoup de choix. Vous avez aussi du Go, du Ruby, vous avez aussi du Python, et plein d'autres langages, du Rust aussi, c'est extraordinaire.
Plein de langages qu'on ne connaît pas forcément.
Vous savez que vous pouvez aussi faire du Bash, voilà. Donc si vous aimez, si vous aimez vraiment bien...
Ami DevOps, voilà. Vous pouvez vous faire plaisir.
Il y a du C Sharp, enfin bon, il y a tout ce qu'on veut, il y a du R aussi. Et en fait, du coup, voilà, vous allez avoir plein de générateurs disponibles, et donc l'avantage, c'est que bah, vous avez plein de langages, donc si... vous n'aimez pas le JavaScript pour tous ses défauts, ce que je peux comprendre, et ben vous allez vous tourner vers d'autres langages, il n'y a aucun souci là-dedans. Et du coup, bah dans les plus connus, bah le plus connu de toute façon, c'est Next. Je pense que ce n'est pas étonnant. Next qui est propulsé par React et qui est un générateur de sites qui se base sur les technologies React. En fait, React propose, un peu comme Vue, toute la possibilité de faire soit des single-page applications, soit faire du server-side rendering, soit faire les deux, ou soit faire de la génération statique. Vous avez son équivalent en Vue aussi qui est très plébiscité, qui est Nuxt. De la même manière que React, en fait, hein, on utilise les mêmes fondements, etc. Et on peut faire SPA, SSR, les deux, ou site statique. Et après, sinon, il y a des éléments qui sont très connus, alors qui ne sont pas du tout... pas forcément en JavaScript, notamment Jekyll.
Je ne vais pas trop avancer, mais l'un des premiers à être un outil de Jamstack. Alors bon, après la syntaxe c'est du Ruby, donc ça peut freiner certains, mais c'était très plébiscité au départ sur GitHub, les GitHub Pages, et même aujourd'hui vous allez pouvoir avoir un petit peu, quand vous configurez une page GitHub, le choix de savoir si vous voulez générer déjà un preset avec Jekyll. Tu as parlé de Next tout à l'heure et de Nuxt. Je tenais à préciser que c'est deux frameworks qui permettent de faire autre chose que de la gêne statique. C'est vraiment des frameworks beaucoup plus complets. Alors que quand on va avoir du Jekyll, du Hugo ou bien du Gatsby qui va aussi utiliser React comme Next, bah Gatsby, lui, c'est vraiment pour faire de la gêne statique. Ceux-là, ils sont vraiment spécialisés pour.
Oui, tu fais bien de différencier ceux qui sont plutôt polyvalents. Et donc, du coup, c'est juste une corde à leur arc. Par rapport à voilà, Jekyll ou Gatsby, où c'est spécialisé pour la génération statique et ça ne fait pas autre chose.
Et si on regarde un petit peu les GitHub Stars, effectivement, bah, dans les 6 premiers, il y a ceux qu'on vient de citer. Donc il y a du Next.js, du Hugo, du Gatsby, Jekyll, Nuxt, Exo. Et puis après, on va avoir des choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas trop entendu parler avec du Ruby, t'as Slate, Docusaurus en full JavaScript avec React et Markdown. Et puis on va retrouver un petit peu dans, juste après, Vue Press dont on avait parlé un petit peu dans les outils, dans le Discovery sur Vue.js, qui va vous permettre de générer des sites statiques en Vue. Principalement, moi je le vois surtout pour faire de la
oui,
doc Vue.
Voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, la Vue Press, c'est pas aussi conséquent que Nuxt ou Next. Là, l'objectif, c'est que ça utilise le moteur Vue, mais c'est une techno qui est là que pour faire de la génération statique. Et donc, Vue Press, par exemple, c'est utilisé pour faire toute la doc de Vue. Le site de Vue, le site de Vue CLI, celui de Vue Routing, etc., etc.
Il y a aussi un générateur de site qui n'est pas ici dans le top du classement, mais qui a percé un petit peu ces derniers temps. Il s'appelle Eleven.t, qui est en fait, lui, basé sur du Vanilla JavaScript. Mais je tenais quand même à en parler, parce que on va dire que c'est pas une licorne, mais c'est quelque chose qui pousse depuis déjà un certain temps.
Ouais, et je pense l'élément assez important à parler avec Eleven.t, parce qu'on n'en a pas trop parlé avec les autres. On a juste parlé du langage sur lequel reposait la programmation qu'on va faire, mais il y a aussi le moteur de template. Donc évidemment, Next, ça repose sur React, donc le moteur de template, c'est celui de React. Nuxt, ça sera du Vue, etc. Mais ce qui est intéressant avec Eleven.t, c'est qu'en fait, on peut avoir beaucoup de moteurs de template différents. On peut avoir du Moustache, on peut avoir du Pug, on peut avoir du Handlebars, du JavaScript tout court, du Markdown, du HTML, voilà. On peut avoir beaucoup de moteurs de templates différents. Donc là, on a une certaine latitude qui nous est offerte, là où certaines technos vont être liées à des frameworks connus comme React ou Vue, par exemple.
Parlons un petit peu maintenant des headless CMS. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Storyblock, mais il y en a quand même pas mal qui existent aussi pour pouvoir brancher votre Jamstack. Alors, on ne l'a peut-être pas assez précisé, mais vous n'êtes pas obligé non plus de brancher un CMS headless. Vous pouvez très bien rédiger, par exemple, des fichiers Markdown. Puis à chaque commit, il y a une moulinette qui exécute votre génération statique et qui le pousse derrière. Votre headless CMS, ça va être vous avec vos fichiers Markdown. Peut-être que tu voulais en parler, Denis, justement, des headless CMS. Est-ce que tu en as d'autres en tête que Storyblock ?
Parmi les plus connus, en fait, on a parlé plutôt des hébergeurs comme GitHub Pages. On sait aussi qu'au niveau des hébergeurs, il y en a un qui est très connu, c'est Netlify aussi, qui nous permet d'héberger pas mal de choses de notre côté. Et ils ont une solution CMS headless qui est open source, qui s'appelle Netlify CMS. Voilà, pas très original en termes du nom, mais qui est pas mal plébiscité. Puis après, sinon, dans les plus connus, il y a Ghost, Strapi. Voilà, je cite des noms, mais je ne cache pas qu'il y a tellement de solutions différentes que voilà, ce n'est pas des solutions que j'ai testées personnellement, quoi. Sachant qu'on en parlait au niveau des inconvénients, ceux qui sont basés sur Git, du coup, ça suppose que la personne qui rajoute du contenu connaisse Git. Ou alors, il faut mettre une couche d'abstraction, etc. Donc, on en parlait, c'est vraiment sur le côté accessible. Peut-être que ceux qui sont régis par API sont un peu plus accessibles, en tout cas pour démarrer, quoi.
Et puis, on va, je pense, avant de terminer ce podcast, parler aussi effectivement des hébergements statiques. Donc, Netlify, qui est l'un des plus plébiscités, des plus importants. Ils écrasent quasiment pas toute la concurrence, mais presque. Parce que déjà, en version gratuite, vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Alors ensuite, on va passer rapidement parce que chacun va avoir ses points positifs et ses points négatifs, mais ça sera à vous d'aller y faire un tour parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a Netlify, évidemment vous pouvez aussi stocker sur Google Cloud Storage, vous avez les S3 d'Amazon, vous avez GitHub Pages, vous avez la version de GitLab aussi, vous pouvez héberger là-dessus. Et vous en avez un dernier notamment que Denis affectionne particulièrement, donc je vais le laisser en parler.
Moi celui que j'aime bien ces derniers temps, c'est Vercel. Je le trouve assez confortable. Et en fait, en termes de fonctionnement, c'est très user-friendly. Et en termes d'usage, en fait, tant qu'on est seul, c'est gratuit. Donc ça nous permet de tester plein de choses.
Il y a un petit truc qu'on peut vous dire aussi, une petite astuce qu'on a découvert justement par rapport à ça. Et c'est comme ça que je pense qu'on a découvert aussi Vercel. On était plus, nous, sur GitHub Pages. Et on avait des repos en version gratuite. Vous pouvez très bien mettre des repos en version privée sur GitHub aujourd'hui gratuitement, mais vous ne pouvez pas y associer un GitHub Pages. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait chercher à mettre nos repos en privé, mais utiliser une solution externe à GitHub pour pouvoir déployer gratuitement un site web.
Ouais.
Et en fait, Vercel peut complètement se plugger à votre repo GitHub privé et déployer ensuite une version sur Internet.
Exactement. Bon, en fait, la notion de version gratuite ou payante, elle n'existe pas trop. En fait, tout le monde a le même niveau d'accès. C'est juste que si on veut être plusieurs sur un dépôt, c'est là que c'est payant. En fait.
Alors que nous, on va plus privilégier des versions gratuites pour des petits projets, des petits tests. On n'a pas forcément besoin de sortir la théorie lourde pour la visée de ce petit projet ou du side project qui va être oublié dans 2 mois, par exemple.
Exactement. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la Jamstack, ou en tout cas tout ce qu'on voulait vous présenter. Je propose de terminer avec un feedback personnel. Et donc, je te propose de commencer, Benjamin.
Avec plaisir. Alors, d'un point de vue personnel, en fait, les Jamstack, je trouve ça plutôt bien. J'ai trouvé ça en voulant déployer en fait, quelque chose sur ma GitHub Pages. En fait, je voulais me faire un site personnel. Et en creusant, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui existaient de façon statique. Hein, parce que moi, de façon statique, sans regarder ça, c'était juste une page HTML. Puis on s'amusait un petit peu à mettre du JavaScript inline dedans. Et puis aussi, il faut garder en tête que ce n'est pas applicable à toutes les applications. Parce que ce ne sera pas des applications, ce sera plus pour des sites vitrines, des sites de contenu. Et puis, foncer pour les utiliser.
Oui, je pense que moi, je te rejoins pas mal sur toute cette dimension. J'ai même la sensation, moi, d'être en retard, en fait, sur ce sujet-là, parce que j'ai pas assez creusé, pas assez pratiqué. Et du coup, j'ai l'impression qu'il me manque un pan, en fait, un pan du web actuel que je maîtrise pas totalement. Et donc, du coup, j'ai plutôt envie de combler ce retard-là assez vite. Parmi les choses qui, moi, m'intéressent, il y a notamment Nuxt 3. On va pas vous cacher qu'il y aura un épisode qui sortira où on aura plein de choses à dire parce que on va le tester et on va faire des choses avec, donc ça va être vraiment intéressant. De la même manière, on n'aura pas d'épisode Frontend Chronicles en août, petite pause estivale, et je vous propose de s'arrêter là et de commencer à aller vous amuser pendant vos heures d'été avec un peu de Jamstack. Je suis sûr que vous trouvez des choses vraiment sympas.
Sur la plage.
Sur la plage, évidemment.
Ça sera pratique.
Exactement. Et donc, on vous dit à la prochaine. Salut !
Salut !